que ceux d'Eretz Israël. Qui a mitzvah azot asher anochi mitzvah hayom, car cette mitzvah que je t'enseigne aujourd'hui, non nifle et himimecha, n'est pas trop extraordinaire pour toi, velo rechokahi, n'est pas trop loin. L'oba shamaimi, elle n'est pas dans le ciel, les mots que tu dises, mi alilanu ashamaima, qui montera pour nous au ciel, vikachecha alanu, il nous la portera, viashmeenu ota vena asena, et nous la fasse écouter que nous l'accomplissions, velo me'ever layam, elle n'est pas non plus au-delà de la mer, pour que tu dises, mi avor lanu el'ever hayam, qui va traverser la mer pour nous, ça doit être la Manche pour arriver jusqu'à Getzed, veikachecha alanu, et qu'il la prenne pour nous, viashmeenu ota vena asena, et qu'il nous la fasse écouter pour nous l'accomplissions, kikarov elecha dabar meod, car cette chose est très proche de toi, beficha ou bilbabecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'accomplir. Alors, de quoi s'agit-il? Allez, je vous ai lu ces derniers versets pour que vous entendiez le mot de mitzvah qui est employé dans le verset. Alors voilà, nous allons aborder assez rapidement aujourd'hui. Bon, je n'ai pas pris ma montre. Quelle heure il est? Bon. L'explication du problème que je vais poser, et puis d'ici dimanche, prenez quand même un peu le temps de bien lire ce chapitre. On a posé la question suivante. Est-ce que faire tshuva, c'est une mitzvah de la Torah ou c'est pas une mitzvah de la Torah? Qu'est-ce que j'entends par cette question? Nous savons qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Est-ce qu'il y a une des 613 mitzvot qui est de faire tshuva, et nous aurions ici le texte, ou bien est-ce que c'est pas parmi les mitzvot de la Torah? Vous avez compris la question, le sens de la question, je vais expliquer. Et d'abord, comment une telle question peut se poser? Est-ce qu'on ne sait pas quel verset institue une mitzvah ou quel verset n'institue pas une mitzvah? Okay. Où est le problème? Le problème, c'est que la règle générale, c'est que toutes les mitzvot nous sont données au futur. Okay. Le verbe que nous traduisons comme un impératif est en réalité un futur. Et même si vous apparaît qu'il y a des exceptions, ce n'est pas des exceptions, chacune s'étudie pour elle-même. Par exemple, lo tirtzach. Comment nous devons traduire littéralement « tu ne tueras pas » Mais comment nous entendons cela? Comment on dit en français, un impératif, okay? Ne tue pas. Mais en réalité, il y a écrit « tu ne tueras pas ». Okay. Alors je vais d'abord commencer par expliquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, nous est qui est une Torah des impératifs, nous est donnée au futur? Alors, en tant que, et là je vous cite un enseignement du Rav Kook, en tant que la Torah s'adresse au clan d'Israël, à la collectivité d'Israël, c'est une promesse. En tant que cette promesse s'adresse à l'individu, elle se traduit dans un impératif. Cette même Torah, elle est entendue par la collectivité comme une promesse, et j'explique après, et elle est entendue par l'individu dans la collectivité comme un impératif. C'est clair? Vous suivez? Par exemple, il suffit de comprendre de la manière suivante. Si tu es Israël, je te promets, tu ne tueras pas. C'est une promesse. Okay? Ça veut dire, le fait que la Torah soit formulée au futur, c'est la promesse que je suis capable de l'accomplir. Sinon, elle ne s'adresserait pas à moi. Le seul fait que la Torah s'adresse à moi, c'est la promesse que je finirai par l'accomplir. Okay? Mais ça, c'est au niveau du clal. Vous suivez? Bon. Maintenant, l'individu ne coïncide pas encore avec cette identité du clan pour qui c'est une promesse. Alors il reçoit l'obligation, le devoir de se faire équivaloir avec ce clan et tout de suite la promesse s'accomplit. C'est-à-dire l'effort que je dois faire pour accomplir l'obligation, c'est l'effort qui doit me faire coïncider, moi, individu, avec l'identité Israël. Deviens Israël, la promesse s'accomplit. L'impératif se transforme en futur. Vous y êtes ? La Torah s'adresse à Jacob comme impératif. Okay? Dès que Jacob devient Israël, elle s'accomplit comme futur. Il faut que Jacob devienne Israël. Jacob entend la Torah comme impératif. Pour Israël, c'est une promesse. C'est clair? Suivez cette première analyse. Bon. Le verset, c'est Torah, tivalano moshe, kilat yaakov. C'est-à-dire, à la naissance, je suis Jacob. Toute ma vie, c'est pour devenir Israël. Les promesses sont faites à Israël. Et qu'est-ce que Jacob reçoit comme obligation? C'est de devenir Israël pour que la promesse s'accomplisse. Alors là, vous avez un thème important. Pourquoi la promesse que Dieu fait est suspendue? À quelle clause? Que je sois celui à qui la promesse a été faite. Dès que je suis celui à qui la promesse a été faite, il n'y a plus de clause. Elle s'accomplit. Vous voyez que pour le clan Israël, il n'y a pas de problème de mérite ou pas de mérite. Ça m'est promis en tant que clan Israël. Il suffit que je devienne cet Israël, ça s'accomplit. Et les mitzvot sont nécessaires pour que je devienne cet Israël. Les mitzvot font de moi, de Jacob, Israël. Et dès que je suis Israël, les promesses s'accomplissent. Vous vous rappelez qu'on a touché à ce problème, au pied du Sinaï, l'incompréhension du peuple, quand Moïse lui dit, pour que les promesses s'accomplissent, il y a une clause, les mitzvot. Okay? Alors, relié à cela. Okay? Je vous ai montré ce conflit entre la foi du peuple, qui a des promesses qu'il faut que Dieu accomplira, et puis les mitzvot que Moïse révèle comme condition pour que la promesse s'accomplisse. Vous vous rappelez de ce conflit? Okay? Voilà, c'est là que vous avez la solution. Il est évident que toute la Torah est une promesse qui est donnée par Dieu à Israël. Seul Jacob peut devenir Israël. Et c'est pourquoi c'est lui qui entend les promesses. Mais il les entend au niveau Israël. Il les reçoit comme obligation mitzvot au niveau Jacob. Ça y est, c'est clair? C'est le même problème pour la prière. Okay? Si je mérite, pourquoi j'ai à demander? Okay? Alors je mérite pour Olam Haba. Mais si je veux pour Olam Hazé, il faut que je demande. Il faut que je devienne celui à qui l'accomplissement est promis. Et en demandant, j'acquiers le mérite d'obtenir. Ça m'est réservé. Mais voilà, c'est moi qui diagnostique, j'ai besoin maintenant. Alors, je suis libre. Il n'y a que moi qui peux prendre l'initiative de demander pour maintenant. Okay? Et par le fait que j'ai le courage de demander, alors je reçois. Si je mérite. Mais quelle était la difficulté? Si je mérite, pourquoi il faut que je demande? Vous suivez? Bon, c'est un problème très parallèle. Dieu nous a promis tout cela. Il nous a promis le monde bienheureux. Il a promis à Israël, il s'adresse à Jacob, parce que seul Jacob peut être Israël. Mais il faut que Jacob devienne Israël. Et c'est les mitzvot qui transforment Jacob en Israël. Ça y est, c'est clair? Bon, et ça, c'est tout le programme de la vie entière. Et chaque fois que j'accomplis une mitzvah, j'acquiers un point d'Israël dans mon être. Okay. Et vous suivez, seul Jacob peut devenir Israël, mais il faut qu'il le devienne. Et c'est tout ce long combat de la nuit contre l'ange, vous avez lu ce texte, qu'on verra à ce moment. Et à la fin de la nuit, Jacob reçoit le nom d'Israël. Et tout de suite, le texte dit, Vaizrachlo Hashemesh, et le soleil a brillé pour lui. Et ça veut dire les promesses s'accomplissent. C'est le créature du matin, on est sorti de la nuit. Vous suivez? Bon. Et alors, la question qui a été posée se relie à ce thème général. Tout le monde est d'accord, tous les poskim, tous les décisionnaires sont d'accord qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Mais il peut y avoir discussion. Si tel verset, c'est une promesse ou un commandement. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Alors, non. Par exemple. Mais non, j'explique, il y a cette clause. Où est-ce que c'est promesse ou est-ce que c'est commandement? Bon, mais vous poserez les questions après parce qu'on a peu de temps. Ça va, suivez. Je vous ai donné un exemple tout au début de l'année. Le verset où Dieu bénit le premier homme. Vaibarechotam, vayomerlaem, perourou. Il les bénit, ça veut dire il les rendit bénis, il les rendit féconds, et il leur dit, perourou, croissez, multipliez, si je traduis comme ça. Okay? Alors il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que croissez, multipliez, c'est le contenu de la bénédiction? Ou bien est-ce que c'est premièrement une bénédiction et deuxièmement un commandement? Vous suivez? Et finalement, la Gemara tranche. Vaibarechotam, il les a bénis. Et maintenant qu'ils sont bénis, ils reçoivent le commandement Pérou. Vous voyez? Et j'aurais pu lire le verset autrement, en disant il les bénit. Et comment il les a bénis? En leur disant croissez, multipliez. Et que c'est la bénédiction. Vous suivez? C'est trop difficile ou bien c'est suffisamment clair? Bon. Ou par exemple, un verset qui est cité par, en général par les textes, « Kedoshim tiyu ki kadoshan »« Vous serez saints, car je suis saint. » Est-ce qu'il y a parmi les 613 commandements un commandement de sainteté? Ou bien est-ce que c'est une promesse? Oui? Bon, c'est un des exemples possibles. Et alors, en général, sur l'ensemble des mitzvot, tous les décisionnaires sont d'accord sur qu'est-ce que ces mitzvahs de la Torah, et il arrive qu'il rattache telle mitzvah à tel verset ou tel autre. Bon. Mais il y a un certain nombre de cas où il y a vraiment controverse. Est-ce que ce dont on parle est mitzvah ou pas? Par exemple, la tshuva. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire tshuva? Et par exemple, le retour en Israël. Est-ce qu'il y a une mitzvah de retourner en Israël? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous savez très bien que c'est un problème contemporain, okay, que vous avez beaucoup de datim, qui dit, mais il n'y a pas une mitzvah de... Où c'est écrit qu'il y a une mitzvah de l'année d'Israël? Alors effectivement, nous allons voir sur ces deux problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous explique, je vous décris la question, on l'étudiera plus en détail la fois prochaine. Et vous voyez, il faut découvrir, et avec surprise ou sans surprise, que pour la Torah, c'est la même chose, faire tshuva et revenir en Eretz Israël. Okay. On était loin, il faut revenir. C'est ça la tshuva. Et c'est pourquoi elle parle de ces deux conduites dans les mêmes versets. Or, en particulier là, et sur ces deux points, il y a la même controverse entre Maïmonide et Nachmanide. Dans le code, selon Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah de faire tshuva. Et il n'y a pas écrit de mitzvah que c'est une mitzvah d'habiter le pays d'Israël. Dans le code de Nachmanide, c'est tout le contraire pour les deux mitzvahs. Il y a une mitzvah de faire tshuva et une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors je vous explique brièvement le principe de l'attitude de Maïmonide, celui de Nachmanide. Et vous allez avoir des surprises, parce qu'en général, les religieux qui se basent sur Maïmonide en disant « mais dans le code de Maïmonide, il n'y a pas écrit », c'est tout le contraire. Et pour Maïmonide, il y a un principe très clair. Un comportement qui est un comportement naturel, il n'y a pas de mitzvah qui y correspond. Okay? C'est clair. Dans un comportement naturel, on n'est pas libre. Et par conséquent, la Torah ne peut pas légiférer sur un comportement naturel. Par exemple, il n'y a pas une mitzvah qui dise « tu mangeras ». Pourquoi ? Parce que manger, c'est une exigence naturelle. La Torah nous dit comment manger, mais elle ne dit pas « tu mangeras ». Alors, pour ceux, quand même, qui sont tellement pieux qu'il leur faut un verset pour savoir qu'il faut manger pour vivre, on trouvera une allusion dans un verset. Tu vois, ici, il y a écrit qu'il a mangé. Alors, mange. Vous voyez le problème? Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est l'exemple classique au Talmud Torah. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut avoir la tête couverte? Okay. C'est pas écrit, mais fait rouge, dans la Torah qu'il faut avoir la tête couverte. Bon, on cite que dans les habits des grands prêtres, il y a un chapeau. Alors, comme nous sommes un peuple de prêtres, il faut mettre un chapeau. Mais vous allez voir quelle est la mentalité du problème. Alors, on a l'habitude de répondre aux élèves de Talmud Torah quand ils posent cette question, mais où il y a écrit dans la Torah qu'il faut mettre une kippa? Alors, il y a écrit parce qu'il y a, et un verset qui dit « Et Abraham est allé sur le chemin ». Elle dit quoi? Quel rapport? Il dit, tu vois Abraham aller sur le chemin sans chapeau? Non, sérieusement, vous voyez Abraham Avinu, sans kippa. Et ne croyez pas que c'est une blague, c'est la vraie réponse. Et quand on a à dire, si on a à dire à un juif, si la Torah doit dire à un juif, premièrement, il faut que tu mettes une kippa, c'est que c'est pas un juif. Je veux dire, ça fait partie de l'identité naturelle, dont on a perdu le naturel. On s'est déculturisé. D'abord, c'est une donnée chez les sémites. Ça va de soi chez un sémite que la politesse, c'est qu'on a la tête couverte. Alors que ça va de soi chez un japhétique que la politesse, c'est qu'on a la tête découverte. Ça veut dire qu'on fait partie de contextes, d'évidences différentes. Et quand quelque chose est une évidence de nature, il n'y a pas à être écrit dans la Torah. Celui qui a besoin de se verser, c'est le signe qu'il n'est pas dans le coup. Est-ce que c'est clair? Réfléchissez bien à ça. Je vous donne un exemple que je donne souvent. Imaginons que la Torah soit un manuel pour pompiers. Okay? Il y a le feu dans le monde, il faut éteindre. Israël, pompier de service. Okay? Eh bien, si dans un manuel pour pompiers, il faut écrire premièrement « sache que le feu, ça brûle », c'est pas à lui que je parle. Il faut que je dise que le feu, ça brûle, et que c'est avec de l'eau qu'on éteint le feu. Alors, il n'est pas concerné. Vous avez compris la gravité du problème. Okay? Alors, et je vais vous donner un exemple. Ce sont des données, si vous voulez, immédiates, élémentaires, qu'effectivement, si on les a perdues, il faut des raisonnements pour les récupérer. Mais le fait qu'il faille des raisonnements pour les récupérer, c'est l'indice qu'on les avait perdues. Je pense que c'est clair. Essayez d'imaginer Je ne sais pas. Il y avait une autre manière de répondre. Bon, enfin, ça va dans le même sens. Essayez d'imaginer votre grand-père, votre arrière-grand-père, ce saint homme qui vivait comme un juif traditionnel. Essayez de l'imaginer à la tête nue. C'est indécent. Okay. Oui. Voilà, c'est ces données élémentaires qu'il faut récupérer. Okay. C'est comme si vous devez dire à quelqu'un que pour ne pas être nu, il faut mettre un vêtement. Okay. Alors vous avez besoin d'un verset pareil dans la Torah. C'est-à-dire quelque chose qui est prêt à la... C'est pourquoi la tradition a choisi d'afka cela comme indice de la sincérité de la relation à la Torah. Okay. C'est pourquoi on appelle la kippa Kabbalat Ramachut Shamayim. Okay. Celui qui va sans kippa, je vous cite la Gemara, bon, vous venez d'un monde assimilé, il faut le temps pour récupérer tout ça. Celui qui n'a pas la tête couverte, c'est le signe qu'il refuse la souveraineté des mitzvot. C'est fini par devenir le signe de cela. Okay. Alors qu'en fait, c'est une mitzvah parmi les autres. Mais elle s'est chargée de ce signe cela. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une tradition très claire que quand les premiers chrétiens ont rejeté la Torah, le signe qu'ils ont donné, c'est de se découvrir. Et c'est pourquoi, surtout chez les Ashkenazim, il y a une sensibilité encore beaucoup plus grande que chez les Sfaradim, que être la tête découverte, c'est être goy. Ça veut dire que c'est le signe par lequel on rejette Ol Malchut Shamayim. Comme chez les Sfaradim, on vivait, chez les musulmans, c'était un peu notre. Vous avez remarqué cela. Il y a une tendance chez les Ashkenazim pieux à considérer cette mitzvah comme très exigeante parce qu'elle est le signe de toute la Torah. Alors chez les Sfaradim, il y a laissé aller un petit peu plus. On peut être, on mange kasher, on pratique Shabbat et on est la tête nue. Vous connaissez ça? Oui. Bon, c'est une erreur, okay? Parce que c'est effectivement le signe de Kabbalat Ramachut Shamayim. Et alors, je vais vous expliquer. En Occident, pour que vous soyez un peu familier à ce problème de sensibilité, en Occident, le signe de la politesse est devenu, à partir de la chevalerie, enlever le casque et le gantelet pour montrer qu'on n'a pas d'intention guerrière. Ça veut dire c'est l'attitude pacifique. Et on se découvre et on découvre la main, on tend la main nue. Ça veut dire c'est le signe de politesse dans une civilisation de guerriers, une civilisation de violence. Okay? Vous comprenez le problème? Alors que le signe de politesse chez les Sémites, c'est précisément d'avoir la tête. Bon, il y a d'autres niveaux d'explication et de raison, mais je vous donne cet exemple pour vous habituer à cette notion de données immédiates pour lesquelles il n'est pas nécessaire, il n'est surtout pas nécessaire qu'il y ait indication dans la Torah. Je vous donne un exemple encore beaucoup plus massif. Vous avez compris déjà cela? Par exemple, il n'y a pas d'allusion dans toute la Torah au monde à venir. Et alors, il y a des gens qui vous diront, mais pourquoi il faut que je croie au monde à venir puisque ce n'est pas écrit dans la Torah? Je vais essayer de vous expliquer cela. Si la Torah devait me dire, tu sais, premièrement, il y a un monde à venir et voilà comment il faut y aller, c'est que ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui vont au monde à venir. S'il faut d'abord qu'on me dévoile ça, qu'il y a un monde à venir, c'est que je ne suis pas dans le coup. Après, on étudiera ça plus en détail. Mais vous voyez quelle est l'explication formelle. D'après, il ne faut pas qu'il y ait d'indication. La Torah, ce n'est pas un bréviaire pour convertir des incroyants. La Torah, c'est la Torah des croyants. Et si elle doit d'abord nous expliquer à quoi il faut croire, c'est pas à nous qu'elle parle. Comprenez? À qui la Torah s'adresse? À Kol Israël et Shlaim Chelek L'Olam Haba. À celui qui va au monde à venir. Alors on lui dit, voilà, le code de la route. Okay? Si dans le code de la route, il y a premièrement cette explication, tu sais, la route, ça mène quelque part, et voilà comment on marche, c'est pas à moi qu'elle parle. Essayez de comprendre bien ce qu'il y a derrière toutes ces idées-là. À travers les siècles, on a tellement perdu la mémoire, on s'est tellement déshébraïsé, que tard, très tard, très tard, pour les Juifs, il a fallu mettre en évidence par des raisonnements allusion à cela dans la Torah. Mais, premièrement, primitivement, le signe que, précisément, la Torah nous concerne, c'est qu'elle n'est pas à nous dire ce qu'il faut être pour être Israël. Elle a à dire ce qu'Israël doit faire pour réussir à être Israël. Mais elle ne s'adresse qu'à celui qui peut être Israël, et qui porte déjà en lui ce préalable. Voilà, ça y est, c'est clair?
Bon. Jacob vient parler de Hayami Marim et la fête juste avant de sa mort.
Mais rappelle-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin de l'exil et le commencement des temps messianiques. Ça veut dire la fin de la Galoute et la Géoula. Là, je te parle de Olam Haba, de Mashiach Acher. Okay? Bon, c'est une certaine manière de connaître ce monde-ci qui porte avec elle la connaissance qu'il y a un monde à venir. La Torah ne s'adresse qu'à cela. Okay? Alors ensuite, on peut servir de la Torah pour convertir des non-Israël à Israël. Mais ça, c'est une dimension dérivée. Parce que la Torah s'adresse à Israël, elle n'a pas à dire, premièrement, tu auras la tête couverte parce que tu vas au monde à venir. C'est des choses qui vont de soi pour quelqu'un qui sort des Hébreux. C'est à la suite, dans le développement du temps, dans le développement culturel, qu'il faut mettre en évidence ce qui était donné immédiate, mais qui est devenu tellement implication cachée qu'on l'a perdu de vue. Alors il faut le remettre en évidence. Ça me permet de vous parler d'un autre principe. Le fait qu'on ait besoin de tellement de livres, c'est le signe qu'on est devenu plus ignorant. Et pas le contraire. C'est pas le signe qu'on est devenu plus savant. C'est le signe qu'on a perdu plus de mémoire et qu'il faut nous la restituer par écrit. Okay? C'est clair. Bon. Vous savez comment on appelle un ignorant dans l'expression talmudique? C'est Hamor Noses Farim. C'est un âne chargé de livres. Il y a plein de livres, mais âne, il reste âne. Okay? Bon. Mais cette légende que Israël, c'est le peuple du livre. C'est une légende. C'est un peu un peuple de libraire, ni de bibliothécaire. Nous sommes le peuple de la parole qui a écrit dans le livre. Et pourquoi elle a été mise par écrit? Parce qu'on a perdu la mémoire. Imaginez Dieu créant un monde pour finalement qu'on invente l'imprimerie. Gutenberg. Voilà, Dieu a créé le monde pour Gutenberg. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Bien, alors je reprends notre sujet. Tu m'as dit quand ce sera une heure, quelle heure il est? Ouais. Donc, alors voyez, quelle est l'attitude de Maïmonide? Elle est très simple. C'est une promesse. Si tu es Israël, tu reviendras. Alors il n'y a pas à donner un commandement à quelqu'un de rentrer chez sa mère. Si c'est sa mère, il revient. Vous suivez? C'est grave ce que je vous dis là. Okay? Ça veut dire, celui qui a besoin d'un commandement pour revenir chez lui, c'est que peut-être c'est pas chez lui. Je crois que c'est très clair, il faut bien comprendre ça. Maïmonide enseigne la Torah à un niveau très aristocratique. Okay? Pour Maïmonide, ça va de soi. La tshuva, c'est un comportement naturel. Revenir en Israël quand on est exilé, c'est un comportement naturel. Et c'est comme ça qu'il lit le verset, au niveau du futur, au niveau de la promesse. Okay? Et qu'est-ce que c'est que ce problème? Une faute, le repentir. Un tzaddik a accepté la Torah. Et voilà, il a fait une faute. On peut lui faire confiance, si c'est vraiment un tzaddik de la Torah, qui reviendra par lui-même. La Torah n'a pas à lui dire, et si tu as fait une faute, commandement, repens-toi. Sinon, elle ne parle pas au tzaddik. Qui est dans le cas d'avoir fait à faire le repentir s'il y a une faute? Celui dont la conscience est sensible à la valeur morale. Alors, si sa conscience est sensible à la valeur morale, c'est cette sensibilité-là qui le ramènera au repentir. Okay. Donc, pour Maïmonide, et c'est un niveau très haut, okay, la tshuva est un comportement naturel. Donc, il n'y a pas à avoir de commandement de la tshuva. Revenir en Eretz Israël, c'est un comportement naturel. Donc, il n'y a pas à avoir de commandement de revenir en Israël. C'est une promesse. C'est clair? Bon. Nachmanide, lui, est d'une toute autre opinion. Il dit, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, je connais les Juifs comme ils sont. S'il n'y a pas écrit que, ils ne le feront pas. Alors, il faut leur écrire que, pour les aider. Et finalement, l'histoire a donné raison à qui? À Maïmonide. Puisque c'est un processus naturel. Okay? Pourquoi les Juifs sont revenus? Pas parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut qu'ils reviennent. Parce qu'ils sont revenus chez eux. Vous comprenez? C'est clair, la Aliyah, on l'a fait avec les pieds, et la tête suit. La Aliyah, on l'a fait pas avec la tête, parce que les pieds marchent pas, la tête réfléchit trop. C'est-à-dire, pourquoi on est venu dans le pays? Parce qu'on est revenu chez soi. Comment? Avec les pieds. Et la tête a suivi. Alors on se cherche des raisons pourquoi mes pieds ont marché. L'essentiel, c'est que les pieds marchent. Vous suivez? Si par exemple vous faites un sondage dans n'importe quelle ville en Israël, vous demandez aux Juifs, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes revenu de l'exil? Chacun va vous raconter une histoire, c'est très intéressant. Il va vous fonder un parti. Mais c'est pas la vraie raison. Il est venu et après il s'est cherché une raison. Okay? Par exemple, un vous dira, ben, je suis venu pour pouvoir être socialiste. comme si on ne peut pas être socialiste ailleurs. D'ailleurs, peut-être c'est vrai qu'on ne peut pas être socialiste ailleurs, c'est un autre problème. Et alors, un autre va vous dire, ah, je suis revenu pour pouvoir être religieux. Ça veut dire qu'on ne peut pas être religieux ailleurs. Et comme on a fait pendant 2000 ans. D'ailleurs, c'est peut-être vrai qu'on ne peut pas être vraiment religieux ailleurs. C'est vrai, mais c'est un autre problème. Chacun va vous raconter son histoire. Et c'est très intéressant, Ken, ce que la tête dit de ce que font les pieds. Mais la vérité, c'est tout autre. On est revenu parce qu'on est juif, on a pu revenir à la maison, on est revenu. Et maintenant, chacun s'explique à sa manière comment c'est arrivé pour lui. Ken. Et c'est pourquoi je vous dirais, vous suivez cela, Ken. On est revenu parce qu'enfin, grâce à Dieu, on est redevenu normal. Ken. Voilà pourquoi on est revenu, parce qu'on est juif, tout court. Ken. Juif exilé, on revient. Alors celui qui ne revient pas, c'est que peut-être il n'est pas exilé. C'est-à-dire que peut-être il n'est pas juif, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ça ne le concerne pas. Et il cherche des raisons pourquoi ça ne le concerne pas. Et vous comprenez, ça c'est Maïmonide. Il dit, Dieu t'a exilé, si tu es Israël, tu reviendras. Je te promets que tu reviendras. Mais non, reviens. Il n'y a pas de commandement pour ça. C'est un comportement naturel. Seulement, quand tu reviens, reviens vraiment. C'est ça le commandement qu'on va voir pour la Tshuva. Nachmanide dit, par une pédagogie différente, non pas une théologie différente, mais une pédagogie différente. S'il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut revenir, ils ne reviendront pas. Bon. Vous comprenez, quand par exemple quelqu'un me dit, mais il n'y a pas écrit chez Maïmonide que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors je dis, oui, mais tu sais, mais il y a écrit chez Nachmanide, Ken. Alors il ressent ça. Alors il dit, pourquoi tu suis que Maïmonide? Tout ce que Maïmonide a dit, tu le fais? Évidemment pas. Alors c'est un faux. C'est un alibi, vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Et oui, la position de Maïmonide, c'est l'inverse. Ce serait grave qu'on ait à écrire dans la loi qu'un juif est chez lui, chez sa mère. Ça veut dire, s'il faut qu'on lui donne ça comme commandement, c'est peut-être que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très grave. Ce qui se base sur Maïmonide pour dire, vous voyez, Maïmonide ne nous a pas donné commandement de revenir en Israël. Ça veut dire que, bon, tu es en train d'avouer que ça ne te concerne pas. Ça y est, c'est clair. Bon. Et c'est la même chose donc pour les deux mitzvot. D'ailleurs aussi pour la Kedusha. Maïmonide va dire, il n'y a pas qu'un commandement d'Akdusha. C'est quand on accomplit toute la Torah qu'on est dans la Kedusha. Nachmanide dit non, il y a un commandement particulier de la Kedusha. Mais oui, c'est une pédagogie différente. En se basant sur les mêmes versets d'ailleurs. Bon, alors c'est quoi je vous disais, l'histoire a donné raison finalement à qui? À Maïmonide. C'est clair. Bon. Vraiment, chez Maïmonide, comme chez Nachmanide d'ailleurs, le commandement, la mitzvah, c'est l'aveu de la faute. C'est-à-dire, sur la tshuva elle-même, il n'y a pas de chova, il n'y a pas de mitzvah, mais Maïmonide dit très clairement, quand tu feras tshuva, la mitzvah est d'avouer la faute qui avait été faite. Oui. Lorsque Maïmonide le dit très clairement, quelle que soit la faute qui a été faite, lorsque l'homme qui a fait une faute fait tshuva, oui, comportement naturel, alors mitzvah, l'itvadot, ça veut dire d'avouer la faute qui a été faite. Parce que c'est l'aveu qui est le signe que le repentir est sincère. Et c'est l'itvadot, le vidouille. La confession, l'aveu. Ce qu'il y a de difficile dans le comportement de la tshuva, c'est l'aveu, c'est le vidou. S'il y a des psychologues parmi vous, vous comprenez ce processus. Quand quelqu'un est capable de parler de ses problèmes, ils sont des livres en parlant. C'est la même chose. L'aveu, le courage de l'aveu, c'est le signe qu'on s'est vraiment repenti. Sinon, on n'est encore que dans le remords, ce qui est très différent. Le remords qui n'arrive pas à se dégager en repentir, c'est encore la maladie, c'est encore ces issourines qui doivent mener au repentir. Mais le repentir, c'est le signe qu'on est guéri de la faute. Bon, alors il y a dans la conduite du repentir 4 points, le regret de la faute, l'engagement pour l'avenir, etc. Mais avant d'arriver dans les détails, je veux que vous compreniez le comportement par lui-même, là, cette conduite par elle-même. C'est clair jusque-là? Top. Alors vous voyez la différence de niveau entre Maïmonide et Nachmanide. Par exemple, prendre un autre problème. Lorsqu'on étudie le problème de la liberté chez Maïmonide, Maïmonide nous dit l'homme est libre et puis il est responsable absolument de tout son comportement. Il y a devant lui le bien, le mal, et il est absolument libre de choisir. Nous savons que dans la réalité, on est tellement conditionné que c'est très rare quand on est libre vraiment. Alors on se demande chaque fois qu'on étudie Maïmonide, mais enfin de quel homme il parle? Il parle d'un homme authentique, c'est très haut. Okay. Nachmanide, lui, traite des mêmes problèmes pour les juifs comme ils sont dans la réalité, avec une pédagogie différente. Et effectivement, beaucoup de juifs ont été aidés de savoir que c'est un commandement, une obligation de la conscience de se conduire comme il est élémentaire de se conduire pour un hébreu sans qu'il y ait de loi pour ça. À cet hébreu-là, on va donner le commandement de la sainteté. Vous voyez la différence de niveau. Est-ce que c'est clair? Bon. Si tu veux. D'accord, on peut dire ça comme ça. Okay. Je dirais peut-être plus que de la vérité, de l'authenticité. Maïmonide parle d'un homme authentique. Okay. Mais très souvent, on se demande, mais de qui parle Maïmonide? Peut-être qu'il parle que de Maïmonide. En réalité, non. Il parle de l'homme tel qu'il devrait être. Okay. Alors, bien sûr, pour un juif normal, il n'y a pas à lui dire, tu sais, ton pays, c'est Eretz Israël. Surtout qu'il prie ça trois fois par jour. Mais à quel point les juifs sont malades. Pendant trois fois par jour, ils avouent que leur pays, c'est Israël. Okay. Et ils cherchent s'il y a un commandement dans la Torah d'y retourner. Complètement. Il faudrait une fois écrire une thèse de médecine, la piété comme névrose. C'est tout à fait ça. Voilà. Oui, oui. Non, de médecine pour avoir aussi la guérison, parce que la psychiatrie, c'est avec le diagnostic. Non, je veux dire, la piété de l'exil comme névrose. Okay. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte tout le temps qu'il faut pour récupérer ces évidences élémentaires. Okay. Et oui, vous pouvez jamais traiter de ça dans un servitude en une fois. Okay. Il faut des mois et des mois pour arriver à retrouver les évidences élémentaires qui ont été complètement déboussolées par la vie dans l'exil. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que les milieux où c'est le plus grave sont précisément les milieux religieux. Parce que les milieux non religieux, au moins, ils n'ont pas tous ces raisonnements à dormir debout, se basant soi-disant sur la Torah. Okay. Et donc je pense que ça vous servira un peu de ce point de vue-là pour votre ce que vous préparez avec Jean-Bernard, c'est qu'effectivement, la conduite du repentir et la conduite du retour en Israël, c'est la même. Et c'est dit en clair dans les textes. Alors dimanche, nous verrons un peu plus en détail ces problèmes. Donc, mais lisez le texte assez attentivement.
Suite du cours.
Les communautés nord-africaines. Qu'est-ce qui se passe? Le jeudi de la paracha de Yitro, donc c'était jeudi dernier, il y a une fête dont je vais vous expliquer l'origine. De toute façon, vous êtes déjà d'une génération qui est un peu coupée de l'Afrique du Nord, et d'ailleurs c'était valable aussi pour les autres communautés, Syrie, Liban, Turquie, enfin le bassin méditerranéen. Enfin, en général, le monde Sfarad, tel que je vous l'avais expliqué tout au début de l'année, c'est-à-dire les descendants des exilés du deuxième temple. Vous vous rappelez de cela, okay. Et puis, finalement, il y a eu à travers les siècles un brassage de population énorme à travers les communautés juives. Et c'est ceux qui se sont adjoints à ce rite, même s'ils étaient originaires des exilés du premier temple. Donc, c'est un rite qui vient des prophètes et des Tanaïm. Tout le monde sait ce que c'est un Tana, okay. Tout le monde, hein, toutes les Kittos. Et d'après le récit que vous verrez dans la paracha de Yitro, si vous avez vu la paracha, vous l'avez vu, lorsque Moïse et Yitro se sont de nouveau rencontrés, il y a eu une séouda entre eux, lorsque Yitro s'est converti à la religion de Moïse, disons. Je vous explique brièvement. Lorsque Moïse s'est enfui d'Égypte la première fois, et il est allé chez Yitro. Cette histoire, nous étudierons tout cela quand on préparera Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la sortie d'Égypte? Et il est resté 40 ans chez Yitro. Et puis, chez Jethro en français. Et ensuite, au bout de 40 ans, de l'exil de Moïse d'Égypte, enfin de sa fuite d'Égypte, il y a eu la vision du buisson ardent. et Moïse est retourné en Égypte. Lorsque les événements de la sortie d'Égypte se sont produits, Jéthro a rejoint Moïse après le passage de la mer Rouge. Bon, enfin, il y a une discussion dans, dans le Talmud, c'est dans la Gemara de Yoma, deux fois aussi dans Gittin, de savoir quand exactement les événements se sont passés, mais enfin, c'est l'événement lui-même qui est important. Il y a eu une rencontre, et c'était plus qu'une rencontre, une sorte de réconciliation entre Jéthro et Moïse. Et puis, ça a été fêté par une Seouda que les prophètes ont institué, donc un jour de fête qui s'appelle le Sioum. Ce mot de Sioum, ça veut dire clôture. Sioum. Alors ne vous trompez pas, je vais vous expliquer deux choses différentes mais qui vont en même temps. Chaque fois qu'une étude, qu'on fait la fin d'une étude, qu'on arrive à un Sioum, c'est-à-dire achèvement, Sioum, et ça y est, terminé. D'une étude de Torah, on fait une seouda qui est une seouda de mitzvah, qui est un repas qui a sa propre liturgie. Vous vous habituerez à la longue, par exemple. On finit d'étudier une maseret de la Gemara ou un livre du Midrash. Le jour même où on finit de l'étudier, il y a une seouda de mitzvah. Et ça s'appelle un sioum. Ça, c'est le terme général d'une seouda de mitzvah qui achève une étude. Bon. Un jour, nous aurons peut-être l'occasion d'étudier, peut-être à propos des lois de la kashrout, vous me rappellerez, la relation entre étudier et manger. Pourquoi il y a une seouda pour honorer l'étude. Bon. Seulement, cette seouda-là s'appelle sioum, mais de façon particulière, c'est les rachetérot, les initiales des mots, de seouda, Yitro ou Moshe. C'est la seouda de Yitro et de Moshe. Sioum, seouda, Yitro ou Moshe. Kent. Allez, laissez-moi parler. Ça, c'est le mot sioum. Alors, pourquoi j'explique ça d'abord? Parce que cette fête qui est commémorée d'une façon générale dans toutes les communautés qui ont reçu cette tradition est fêtée de façon particulière dans les communautés de Tunisie. Parce que je ne me rappelle plus en quel siècle, enfin ça les Tunisiens se rappelleront certainement mieux que moi. C'est-à-dire, et on remarque d'ailleurs que plus on s'approche de l'Atlantique, moins c'est connu. C'est-à-dire plus chez les Tunisiens, un peu moins chez les Algériens, un peu moins chez les Marocains, ça dépend dans quelle communauté. Et il y a eu une épidémie, enfin une maghefa, je ne sais pas si c'était exactement une épidémie, mais enfin une maladie qui frappait les garçons, les jeunes garçons, et elle s'est arrêtée, cette épidémie, un jour de Sioum, c'est-à-dire qui tombe toujours le jeudi, de la paracha de Yitro. C'est clair? Alors c'est pourquoi en Tunisie ça s'appelle la fête des garçons. C'est ça. Okay. Et je crois que en général c'est fêté par un repas de fête où il y a en général un couscous. Mais enfin c'est pas forcé que ce soit un couscous, ça dépend des communautés. Seulement chez les Tunisiens, alors ça il faut demander aux Tunisiens pourquoi. On prend un pigeon par enfant ou quelque chose de ce genre. Je vous ai. Bon. Et alors, il y a une erreur qui s'est répandue chez les Tunisiens, pas à Martsout, uniquement chez les ignorants, qu'ils appelaient ça Tzion. Je ne sais pas si tu as entendu. Bon, ça dépend de quelle communauté tu es. Alors, ne vous trompez pas, ça ne s'appelle pas Tzion, ça s'appelle Sioum. Bon, je voulais vous le dire la semaine dernière, mais ça m'a échappé. Alors, en tout cas, la règle, c'est que, quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, vous continuez les minhagim de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc, par conséquent, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. J'ai complètement oublié, sinon vous l'auriez fait ici. On aurait encore goûté un coup de du midi. Bon. Bien. Sioum, okay. Donc, c'est clair. Y a aussi d'autres fêtes propres aux Tunisiens, et je ne me rappelle plus quand. Je crois que c'est le Tou B'Av, que quand on est fiancé, le fiancé achète une petite gargoulette pour la fiancée. Donc, la fête des gargoulettes, vous connaissez tout ça. Bon. Ah, vous savez pas ce que c'est ? Oui. Bien, bon, tout ça, c'était des folklores anciens. Bien, alors on revient à la tchouva. Alors écoutez, je voudrais qu'on termine déjà ce matin l'étude du chapitre 30, enfin de ce qui concerne nos problèmes de la tchouva. Et puis je vous distribuerai pour la fin du cours une page de Gomara, comme elle a été encore une fois difficultueusement imprimée. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, sinon on refera imprimer d'autres avant la fin de l'année en tout cas. Vous les partagerez à la fin de l'heure et essayez de l'explorer un peu si vous pouvez d'ici mardi. Alors le sujet du deuxième cours sera la différence de statut entre ce qu'on appelle un Baal Tshuva et d'autre part un Tzadik Gamour. Bon, mais on verra ça tout à l'heure dans le courant de l'heure. Bien, alors écoutez, essentiellement la dernière fois, si je me souviens bien, nous avons repris un certain nombre de généralités concernant la conduite de Tshuva elle-même, et j'ai essayé d'expliquer, enfin en partie en tout cas, que pourquoi cela représente un acquis de la conscience hébraïque, parce qu'une telle notion, un tel comportement, pour beaucoup de raisons, nous en avons étudié deux au moins, ne peut pas faire partie de la pensée naturelle. Vous vous rappelez de cela, okay. Surtout le problème de l'irréversibilité du temps. Et soyez bien attentifs à cela. Nous sommes partis d'une observation apparemment purement de linguistique. Mais en réalité, il y a là toute une option idéologique, c'est peut-être pas le mot, mais toute une option de la conscience derrière cette règle qui apparemment n'est qu'une règle de grammaire. La perception de la possibilité de la réversibilité du temps. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et c'est relié à la relation au problème moral. Et vous voyez, ce niveau de chokhma, en fin de compte, était perceptible, chacun dans son style, dans toutes les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que ce sont des notions auxquelles vous commencez à faire un peu connaissance cette année, des notions de chokhma qui sont inhabituelles pour la pensée conceptuelle, abstraite, telle qu'elle est connue dans la culture occidentale actuelle. Et c'est un peu ce niveau-là qui s'appelle la chokhma en général. C'est-à-dire le fait qu'il y a une relation à la loi morale différente suivant que la conscience est sensible à une relation de réversibilité du temps ou d'irréversibilité du temps. Ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que ce n'est pas tellement consécutif à des opinions, à des conceptions. C'est relié à une manière d'être homme fondamentalement profonde. C'est-à-dire, à partir du moment où l'intuition qui est représentée par cette chokhma est comprise, enfin, c'est plus que comprise, parce que comprise, c'est encore un terme qui va avec l'intelligence abstraite, mais enfin, est vécu. À ce moment-là, l'intelligence elle-même peut exposer de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas une notion de l'intelligence. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, Ken? Tout le monde comprend ce que je veux essayer de comprendre, de faire comprendre. C'est une manière de vivre un comportement humain qui ne dépend pas du tout de la qualité de l'intelligence, qui est une intuition qui vient de plus profondément que l'intelligence, de la manière d'être homme, de ce que j'ai l'habitude de vous appeler de façon globale la conscience hébraïque, okay, et qui, pour tout homme doué d'une intelligence minimum, peut être envisagée comme hypothèse, mais rejetée, parce qu'elle est invraisemblable pour l'intelligence, si on ne dispose pas d'autre part de cette expérience d'intuition de chokhma dont je vous parle. On a eu une analyse un peu analogue à propos de la notion de création. La notion de création peut être envisagée par l'intelligence comme hypothèse, et puis elle est rejetée s'il n'y a pas adhésion de la conscience pour des raisons d'ordre moral et pas proprement intellectuelle. En tout cas, si vous voulez, morale ou spirituelle, mais en tout cas pas d'ordre intellectuel à proprement parler. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je crois que c'est faux de dire que il y ait une différence de la nature de l'intelligence par rapport aux différentes cultures. À la limite, l'intelligence humaine est universelle. Mais elle est au service d'intuitions de chokhmah différentes suivant les cultures. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? C'est-à-dire, quand je vous dis la raison humaine est universelle, la preuve, c'est la science et les techniques. Okay ? Le langage rationnel de la science est universel. Et cependant, il y a des cultures différentes, des conceptions du monde différentes par rapport à ces problèmes importants auxquels nous touchons. D'où vient la différence ? Pas du raisonnement. Elle vient de ce que je vous ai dit.